L'entretien du 18h, bien, revient sur l'entretien musclé entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. C'était vendredi dernier et le lendemain, eh bien, a eu lieu un sommet européen à Londres. On revient sur ce sommet avec Alberto Toscano, journaliste et spécialiste des affaires européennes. Il répondait aux questions de Lucie Gilson.
Bonjour Alberto Toscano.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Radio Judaïka. Alors, vous êtes journaliste et spécialiste des questions européennes. On ne peut pas aujourd'hui ne pas revenir sur l'entrevue musclée entre Volodymyr Zelensky, Donald Trump et J.D. Vance qui a eu lieu au cours du week-end, qui a déclenché une réaction en chaîne de la part des Européens et abouti à la tenue d'un sommet exceptionnel à Londres ce week-end. Alors, cette discussion entre Volodymyr Zelensky, Donald Trump et J.D. Vance, elle a quand même eu le mérite de pousser les Européens à s'accorder sur la question ukrainienne. Est-ce qu'il y a une prise de conscience pour les Européens?
Oui, une prise de conscience absolument impérative, dans le sens que les Européens aujourd'hui perçoivent leur faiblesse stratégique devant une Russie de Poutine qui est de plus en plus déterminée à retrouver son influence dans son ancienne sphère d'influence et de pouvoir à la fois en Asie centrale et en Europe orientale. Alors, quelles sont les limites de la possible expansion de Poutine? Point d'interrogation. La chose que les Européennes considèrent comme fondamentale est de se renforcer stratégiquement. Et là, le débat devient compliqué entre Européens. Parce qu'il y a en gros deux lignes. La ligne franco-britannique qui est pour insister surtout sur l'indépendance des Européens, et la ligne italienne qui a aussi des points de soutien dans d'autres pays, Allemagne comprise, qui imagine la reprise du dialogue avec l'administration Trump et qui affirme qu'il est absolument impossible aujourd'hui pour l'Europe de se passer dans l'Alliance Atlantique. Alors, est-ce que l'Alliance Atlantique est encore centrale dans l'avenir de la sécurité européenne? Nombreux observateurs pensent que oui. Et si vous permettez, très modestement, moi aussi, je considère que l'Alliance Atlantique est absolument et malgré tout centrale dans l'avenir de la sécurité européenne.
Aujourd'hui, si les États-Unis venaient à mettre à exécution ces menaces de se retirer, par exemple, de l'Alliance transatlantique, l'Europe ne pourrait pas gérer sa défense seule?
Non, mais cette hypothèse n'existe pas. Il n'est pas question de la fin de l'OTAN. On peut discuter d'un rééquilibrage à l'intérieur de l'OTAN. On peut discuter de la naissance du renforcement d'un pilier européen à l'intérieur de l'OTAN. D'ailleurs, dans le passé, il y a eu, dans les années 50, la discussion sur la communauté européenne de défense qui, en 1954, a été effacée par le vote du Parlement français contraire à la naissance de la communauté européenne de défense. On peut tout discuter à propos du rééquilibrage de l'OTAN, mais on ne peut pas imaginer le retrait des États-Unis de l'OTAN. Il est évident que les États-Unis aujourd'hui sont beaucoup plus inquiets de ce qui se passe dans le Pacifique par rapport à ce qui se passe dans l'Atlantique. Mais l'Atlantique demeure fondamentale pour les intérêts des États-Unis d'Amérique, malgré la présence d'une personne comme Donald Trump à la Maison-Blanche.
Alors, je souhaiterais que, si vous le voulez bien, que l'on revienne sur ce sommet de Londres. Qu'est-ce qui en ressort? L'Union européenne a proposé un plan en 4 points. Déjà, nous parviennent des dissensions entre les deux États instigateurs, la France et la Grande-Bretagne. Qu'est-ce qui en ressort?
Le plan est flou. Et les premières dissensions franco-britanniques, et je rappelle que France et Grande-Bretagne sont un peu les parrains de cet hypothétique plan de paix, au plan de cessez-le-feu. Les distorsions franco-britanniques montrent le fait que beaucoup de choses doivent encore être mises à point. Et le concept fondamental est une trêve qui ne dit pas son nom, dans le sens que le président Macron a parlé d'une trêve dans le combat de mer et d'air, mais pas dans le combat terrestre. Et ça, c'est difficilement concevable, parce que tout est lié, en particulier l'air et le combat terrestre sont intimement liés entre eux. Et d'ailleurs, il y a tout les deux côtés qui, ukrainiens et russes qui s'affrontent dans les combats terrestres utilisent largement des moyens aériens à la fois pour le renseignement et pour les opérations militaires proprement dites. Donc c'est un projet flou qui a quand même le mérite de poser la question aujourd'hui indispensable, c'est-à-dire est-ce qu'on peut quand même arrêter les combats. Parce que pour arriver à la paix, il faut bien passer par un cessez-le-feu. On passera aussi par, on le souhaite, par une conférence de paix. On passera pour d'autres étapes politiques et diplomatiques. Il faut bien arrêter de se tirer dessus pour commencer le chemin de la paix. Aujourd'hui, l'attitude arrogante, brutale, et un peu irresponsable de l'administration américaine contribue à augmenter cette dose d'incertitude et de flou. Les Européens se posent un problème immédiat, celui de favoriser les négociations de paix, et se posent un problème à long terme qui est fondamental dans leur perspective et qui est celui de se doter d'une industrie militaire européenne intégrée, celui d'avoir des positions politique commune sur les principaux problèmes internationaux, à commencer évidemment par ce qui se passe en Ukraine, celui de se doter d'un système de défense réellement intégré, en accord évidemment avec l'Alliance Atlantique. Tout ça implique, c'est un processus de plusieurs années et peut-être de plusieurs décennies. Les Européens ont la responsabilité d'arriver trop tard à ce rendez-vous de l'histoire. Aujourd'hui, et on le verra au sommet à Bruxelles le 6 mars, sommet imminent, les Européens doivent partir de l'étincelle de la sonnette d'alerte, d'alarme, qui a été représentée par la crise actuelle, par l'agression russe à l'Ukraine, pour se poser un problème de long terme de leur autonomie stratégique dans le contexte de l'Alliance Atlantique.
Alors, ma dernière question, Alberto Toscano. À ce sommet, il y avait également deux autres protagonistes hors pays européens, le Canada et, plus surprenant, la Turquie. Que penser de la présence de ces pays? Est-ce qu'on est en train d'assister à la naissance d'un nouvel ordre mondial?
Et l'ensemble des crises commence en Ukraine et passe par le Moyen-Orient et arrive aussi sur le plan des crises commerciales et économiques qui aujourd'hui divisent les États-Unis, du Canada, du Mexique et de l'Europe. C'est un ensemble de polémiques. C'est comme si l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche avait obliger les autres partenaires, les partenaires des États-Unis, de se poser le problème de clarifier leur attitude et de mesurer la capacité de dialogue entre eux pour faire face aux points d'interrogation qui sont posés et imposés par la nouvelle administration américaine. Donc il est, de ce point de vue, logique qu'un pays de l'Alliance Atlantique comme la Turquie et un pays de l'Alliance Atlantique comme le Canada dialogue avec les pays européens au sujet de ce qui se passe en Europe et aussi dans le monde.
Eh bien, Alberto Toscano, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des questions européennes. Merci beaucoup, à bientôt.
Au revoir, à bientôt.